Le débat, Africa Radio, BBC Afrique, présenté par Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous de l'actualité sur nos deux radios partenaires. Comme annoncé la semaine dernière, vous vous en souvenez, ma collègue Liliane Yacha a eu la bonne idée de prendre quelques jours de vacances. Nous lui souhaitons bien sûr d'agréables moments en attendant son retour dans l'émission. Au sommet de cette édition, quel bilan peut-on faire de la lutte engagée contre le terrorisme dans la région du Sahel? Cette question était au cœur d'un récent sommet des chefs d'État à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les décisions prises à l'issue de ce sommet sont-elles à la mesure des enjeux? Peut-on y voir le signal d'un nouveau sursaut régional contre les nouvelles formes de conflits dans cette région? Nous en parlerons dans cette édition avec nos invités. Autre actualité. Actualité judiciaire cette fois, avec la contre-attaque de la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, qui a fait appel cette semaine de l'acquittement prononcé le 15 janvier dernier en faveur de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé. Quel pourrait être l'impact de ce nouvel épisode judiciaire dans le contexte politique ivoirien? Nous écouterons les commentaires et analyses de nos invités. Enfin, retour sur le premier voyage officiel du président congolais de la RDC, Félix Tshisekedi, en Belgique. Quel est le sens de cette visite et quelles en seront les retombées pour les deux pays? Nous en parlerons aussi dans cette édition. Voilà donc pour le sommaire. Notre grand témoin invité dans cette édition, il n'est pas au téléphone, il est en studio à Dakar, le docteur Bakary Samb. Docteur Bakary Samb, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du Timbuktu Institute, l'African Center for Peace Studies. C'est le centre africain d'études de la paix, un centre basé à Dakar et à Niamey. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre confrère invité dans cette édition, il est au téléphone depuis Abidjan, c'est Augustin Couillot, rédacteur en chef du quotidien Notre Voix. Augustin Couillot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Petite fiche de présentation de notre grand témoin invité, Bakary Samb, docteur de l'Université Lumière à Lyon 2 en France, en sciences politiques et relations internationales, coordinateur de l'Observatoire du radicalisme religieux et des conflits en Afrique, professeur assistant au Centre d'études des religions de l'Université Gaston Berger. Vous êtes un expert de la prévention des conflits et de la lutte contre l'extrémisme violent dans le Sahel, directeur exécutif de l'Institut Tombouctou, le Centre africain d'études de la paix. Vous êtes l'auteur notamment d'un essai intitulé « Boko Haram, d'un problème nigérien à une menace régionale » paru en 2015. Bakary Samb, vous serez donc notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Merci d'être avec nous. Premier sujet donc, la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Le 14 septembre dernier, la capitale burkinabé accueillait un sommet extraordinaire des dirigeants des 15 pays de la CEDEAO. Était également présent le président tchadien Idriss Déby et le chef de l'État mauritanien Mohamed Ould Razouani. Objet de cette rencontre, la lutte contre le terrorisme djihadiste dans la région du Sahel. Au programme également, le point sur la force conjointe G5 Sahel. Première question pour vous, Bakary Samb, bien sûr. Quel regard vous portez, hein, vous avez porté sur cette réunion de Ouagadougou? Était-ce, selon vous, un bilan d'étape sur la lutte contre l'extrémisme violent et autres nouvelles formes de violence, ou plutôt un constat d'échec?
Merci bien de votre invitation à cette émission qui est très très écoutée sur le continent et qui nous renseigne beaucoup sur l'évolution de l'actualité avec des expertises avérées, et je vous en félicite pour cela. Je crois que le sommet de Ouagadougou a été en fait les deux en même temps, a été en même temps un bilan d'étape, parce que c'était un sommet extraordinaire avec la présidence de la CEDEAO par le président Issoufou, mais aussi du G5 Sahel par le président Kaboré. Et il y a quelques mois, avec vos collègues de Niamey, les deux jours, qui est basé au Niger, je disais que la présidence Issoufou allait peut-être inaugurer une nouvelle ère en termes de synergie et de coopération, et en tout cas l'intensification des relations et des coopérations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Et pourquoi donc vous l'avez trouvé plus lucide que ses collègues, que ses homologues?
Il y a des circonstances. Oui, en fait, oui, le Niger fait partie des pays qui sont sous haute pression sécuritaire, entourés par tous les États qu'on le connaît, connaissant la menace Boko Haram au sud, mais aussi connaissant la menace à part du Mali, mais aussi pays précurseur dans la mise en place du G5 Sahel. Et que Issoufou, qui arrive à la tête de la CEDEAO, conscient de ces problématiques-là, ça allait donner un nouveau déclic, en tout cas un nouvel élan à cette approche régionale et vers des synergies. C'est cela l'angle d'analyse de cette situation qui était inédite.
En fait, vous voulez dire que votre constat se confirme désormais ?
Oui, je pense, parce qu'avec ce sommet extraordinaire, avec l'implication du G5 Sahel, de la CEDEAO, de la CAC, la présence de la CENSA, de l'Union africaine, même de certains partenaires internationaux dont on parlera beaucoup plus tard sur leur implication dans la crise sahélienne, je pense qu'il y a une volonté là de synergie avec la présidence Issoufou à la tête de la CEDEAO, mais aussi qui répond à des circonstances qui font qu'aujourd'hui, aucun pays ne peut plus contenir la menace tout seul, et qu'il faudrait des synergies régionales et même interrégionales si l'on sait que la question Boko Haram, par exemple, ne peut pas être réglée seulement par la CEDEAO. Il faudra nécessairement impliquer des pays d'Afrique centrale et donc la CAC.
Pourquoi cette prise de conscience arrive maintenant ? On y arrive, on va y arriver tout à l'heure. Lors de ce sommet, le président burkinabé, Rochma Christian Kabore, a rappelé le drame qui se déroule dans son propre pays en ce moment, les attaques terroristes et surtout leurs conséquences, parmi lesquelles une crise humanitaire sans précédent. Bakary Samb, est-ce que ces violences qu'on observe, et vous en êtes l'un des experts, est-ce que ces violences sont en train de provoquer, pour les pays qui sont les plus touchés, je pense au Mali, au Burkina Faso, sont en train de provoquer une crise multidimensionnelle, notamment économique et sociale? Est-ce qu'on est au-delà même, je dirais, désormais de la crise sécuritaire?
C'est vrai que si on observe les pays de la région, on pourrait les diviser rapidement en trois catégories. Il y a la première typologie des pays qui sont largement touchés par le phénomène, comme le Mali, le Burkina aujourd'hui, le Nigeria, etc. Il y a des pays qui sont maintenant sous haute pression sécuritaire, comme le Niger et la Mauritanie et d'autres pays, mais des pays qui peuvent encore aussi développer une approche préventive et prospective, qui sont les pays côtiers, le Bénin, etc., qui peuvent être menacés. Maintenant, le Togo, etc., les pays côtiers. Et que maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a un déplacement de cette violence-là et une mutation dans la forme de la violence. De plus en plus, les violences sont intercommunautaires, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la concrétisation des thèses d'Abou Walid al-Sahraoui, à la sortie de l'opération Serval, qui disait que désormais, ils feront de plus en plus des opérations qui utiliseront les communautés, une forme de transfert de la violence, non pas avec des attaques massives revendiquées par Al-Qaïda, etc., mais causer, parasiter les conflits locaux pour les exploiter à des fins d'extrémisme.
Ça veut dire que vous établissez, vous, clairement un lien entre ce nouveau conflit communautaire qu'on observe aujourd'hui au Burkina Faso et au Mali et ce qu'on a pu identifier à un moment donné comme étant des attaques d'obédience djihadiste.
La nature de la violence a changé. Dans un article que j'ai publié récemment, je parlais peut-être de manière assez provocatrice de post-djihadisme. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans des formes de violence où c'est des revendications avec une coordination régionale qui est difficile à faire, avec quand même l'étau qui se resserre autour de ces groupes-là. Maintenant, les groupes se contentent seulement d'exploiter les conflits intercommunautaires, de leur mettre un habillage islamique ou djihadiste et de les revendiquer. Et sur ce, ils sont sûrs après d'avoir le maximum de gens qui vont recruter. Mais le Burkina, il faut le rappeler, le Burkina, à mon avis, n'est pas un objectif final. Le Burkina est un objectif intermédiaire. Parce que dans l'option de Abou Walid al-Sahraoui et de l'État islamique au Grand Sahara, il faut arriver à casser le verrou burkinabé pour arriver en Afrique côtière. On a eu un exemple récemment avec les prises d'otages au Bénin qui montre qu'il y avait une coordination entre les groupes qui opèrent sur le Mali et d'autres groupes qui opèrent sur le Burkina Faso pour aller traverser la frontière, pour aller vers le Bénin. Ça veut dire que les attaques récurrentes sur le Burkina sont en même temps une alerte pour les pays d'Afrique côtière.
Alors, revenons donc à ce sommet qui s'est tenu le 14 septembre dernier à Ouagadougou. Au programme de ce sommet, le G5 Sahel. Et il faut dire qu'il y a quelques semaines avant ce sommet de Ouagadougou, le président ivoirien Alassane Ouattara émettait déjà des réserves sur la pertinence même de cette force G5 Sahel. Et à Ouagadougou, c'était au tour du Nigérien Mamadou Issoufou lui-même de s'interroger en ces termes, je le cite, « Faut-il trouver un substitut au dispositif actuel ou bien le renforcer ?» Fin de citation. Bakary Samb, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces réserves émises par les mêmes chefs d'État qui, il n'y a pas si longtemps que ça, estimaient que le G5 Sahel était une des meilleures réponses à la crise sécuritaire?
C'est logique dans le propos de Issoufou et dans le propos de certains leaders africains qui affirme clairement que les pays occidentaux n'ont pas assuré le service après-vente de l'opération libyenne. Mmh. Et que après la chute de Kadhafi, on connaît la suite. Et qu'aujourd'hui, au niveau du G5 Sahel, le G5 Sahel en soi, je pense, c'est une bonne initiative. Oui. Dans le sens où c'est une initiative régionale tenue par des pays africains qui ont pris les choses en main. Oui. Mais ce qui a été fait jusqu'ici, on n'a pas donné au G5 Sahel les moyens. Vous avez vu beaucoup de conférences internationales à Paris, à Bruxelles, ailleurs, avec des moyens colossaux qui ont été promis, mais in fine, ces promesses tardent à se concrétiser.
Mais le meilleur avocat du G5 Sahel est devenu à un moment donné le président français Emmanuel Macron. Est-ce que le G5 Sahel est toujours une force d'inspiration africaine ou d'inspiration française, voire internationale ?
C'est vrai que l'implication assez marquée de la France dans le fonctionnement du G5 Sahel montre que, en tout cas inspire certains que c'est une force éminemment dominée par la France ou sous influence française. Mmh. Mais on le voit de plus en plus. Le terrain sahélien est devenu un terrain de compétition où on voit un pays assez réservé, même l'Allemagne de Angela Merkel est aujourd'hui impliquée en se liguant avec la France. L'Allemagne qui avant n'avait pas véritablement d'ambition ouest-africaine, aujourd'hui se prononce comme étant un acteur important de la scène sahélienne. Mais cela pose un problème. On est dans un paradoxe qui est assez problématique. C'est-à-dire que les groupes djihadistes sont de plus en plus dans une forme de convergence et de coordination. Au même moment, la communauté internationale est en train de se diviser, ce qui, dans l'esprit des citoyens africains et des populations locales, donne l'impression d'une compétition autour d'enjeux qui dépassent largement la question de la crise sahélienne.
Mais très franchement, Bakary Sambé, avec toutes ces réserves émises par ces chefs d'État, est-ce qu'on n'est pas en train de s'éloigner du protocole G5 Sahel ?
On n'est pas en train de s'éloigner parce que je pense que sur la question du développement, sur la question des infrastructures et la question du secrétaire permanent qui est en train de tourner, etc. Mmh. Les objectifs sont encore là. Mais ce que je vous dis, c'est que le terrain sahélien est devenu un terrain de compétition avec d'autres enjeux. On voit les Russes qui arrivent, on voit l'Allemagne, la France qui est au centre, mais aussi d'autres pays qui expriment de plus en plus leur désir de devenir un acteur. Qui auront une carte à jouer dans cette passe sahélienne, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'au même moment, cette forme de concurrence, cette forme de rivalité apparente que l'on voit, donne l'impression maintenant aux populations africaines que il y a d'autres enjeux qui les dépassent, et au même moment où ces populations souffrent des mesures sécuritaires draconiennes, et en même temps, on se rend compte que ces populations vivent de moins en moins en sécurité. Ceci est un réel problème, et je crois que de conférence en conférence, on traîne ces questions-là. La conférence de Ouagadougou a essayé de les traiter un peu, mais en essayant d'ouvrir et d'élargir le spectre des partenariats, je ne sais pas ce que ça va donner dans le concret.
Avec cette multiplication d'acteurs, vous l'avez dit il y a quelques instants, avec aussi l'addition de toutes ces forces, Barkhane, les éléments américains présents dans la région aujourd'hui, les éléments européens également, en plus évidemment des Français, il y a des Allemands désormais, il y a la force MINUSMA qui est au Mali. Tout cela finalement n'a pas fait reculer l'insécurité dans cette région du Sahel. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir, de revisiter totalement le système même de coopération entre ces pays de la CEDEAO notamment, les pays du Sahel et leurs partenaires extérieurs?
Il est sûr qu'un changement de paradigme s'impose au Sahel. On a tout misé sur le tout sécuritaire. Et je le disais dès les années 2015 que l'expérience nous apprend que le terrorisme ne se vainc pas seulement par des mesures sécuritaires et par le militaire. On a vu les Américains 15 ans en Afghanistan, les talibans n'ont pas disparu. Les Français sont intervenus au nord du Mali avec Serval et maintenant Barkhane. Au lieu que les groupes disparaissent, les groupes sont en train de se multiplier et en train de déborder sur le centre du Mali et toucher le Burkina et d'autres pays. L'épicentre du djihadisme qu'était le Mali aujourd'hui est en train de produire des métastases tout autour de ce pays-là et le problème ne fait que s'amplifier. Donc il faudra revoir l'approche purement sécuritaire et doubler cette approche sécuritaire par une approche par le développement, par l'éducation. Vous savez, je le dis souvent, on ne peut pas tuer une idéologie par une Kalachnikov. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui mérite une approche holistique, une approche beaucoup plus intégrée, qui parte des réalités endogènes des Africains au lieu de se concentrer sur des agendas qui aujourd'hui dépassent largement le cadre de l'Afrique, mais se traduit comme une forme de compétition de nouvel ordre entre la Russie, la France, les États-Unis et d'autres pays aujourd'hui qui arrivent sur ce terrain sahélien qui est devenu le terrain du nouveau grand jeu.
Alors comment mettre en place des mesures, en tout cas des réponses spécifiquement régionales, on le dirait. Je me tourne vers notre confrère qui est à Abidjan, Augustin Couillot, rédacteur en chef du quotidien Notre Voix. Augustin Couillot, alors à l'issue de ce sommet de Ouagadougou, la CEDEAO, élargie, on l'a vu, à la Mauritanie et au Tchad, a annoncé un plan d'action 2020-2024 qui serait financé à hauteur $1 milliard. Alors la CEDEAO devrait aussi adopter en décembre prochain un plan d'action sur 5 ans portant essentiellement sur une mutualisation et une coordination accrue des efforts dans la lutte contre le terrorisme, un partage direct de renseignements entre États membres ou encore la formation de l'équipement technique, etc. Et Augustin Couillon pourrait se demander, au fond, est-ce qu'il ne fallait pas commencer par ces dispositions depuis plusieurs années déjà? Pourquoi seulement maintenant?
Écoutez, merci beaucoup. Je pense que l'Afrique, de façon générale, paye dans cette lutte contre le terrorisme une certaine forme de lâcheté que les chefs d'État ont développé depuis l'attaque de la Libye, disons la guerre en Libye amenée par les Occidentaux. Et cette lâcheté a fait que les Africains ne se sont pas opposés vigoureusement à cette guerre, en pensant que ce qui arrivait à la Libye n'allait pas déborder sur les autres pays d'Afrique, notamment le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire, déjà été victime d'attaques sur la côte à la plage à Bassam. Donc maintenant, se réunir à Ouagadougou pour mettre en place un plan financé par eux-mêmes sur 4 ans, mutualiser les moyens, ça peut apparaître intéressant déjà à première vue. Il faut encore que les pays aient la capacité de mobiliser les fonds, et je crains qu'ils abandonnent encore, qu'ils se tournent encore vers la France ou l'Allemagne ou encore l'ONU pour essayer de récolter ce qu'eux-mêmes ils ont promis. Je ne les crois pas capables de ce sursaut d'orgueil, et sinon ils n'auraient pas permis à Sarkozy de bombarder la Libye et de structurer un État qui fonctionnait assez bien, malgré ce qu'on pouvait reprocher à Kadhafi. Aujourd'hui, le Mali est un vrai mouvement. Le Burkina, c'est tous les jours que les civils et les militaires meurent. Et la Côte d'Ivoire, c'est l'inquiétude généralisée, parce que il n'y a pas de frontières, en réalité, entre ces pays. Et donc, c'est vraiment inquiétant pour ce qui se passe. Et même la prise de conscience des chefs d'État africains, il y a beaucoup de questions là-dessus pour l'instant, parce qu'on ne sait même pas s'ils seront capables de tenir leurs propres promesses.
Vous ne croyez pas que ces résolutions seraient suivies d'effets dans les prochains mois?
Je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais je veux dire qu'ils n'ont pas toujours été capables de faire face à des toutes petites choses dans leur propre pays. Ce n'est pas au plan sous-régional qui réussirait, puisque de toute façon, les organisations comme la CEDEAO sont déjà presque sous tutelle de la France. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont se réveiller brusquement d'un profond sommeil pour se dresser contre le terrorisme qui n'est pas facile à combattre. L'invité a parlé tout à l'heure de l'Afghanistan, où les Américains ont passé plusieurs années et où aujourd'hui ils n'ont pas réussi à éliminer. Au Mali, on a vu toute la campagne des bombardements qui n'a pas pu éliminer ces djihadistes. Et je crains que ce soit des efforts vains.
Merci beaucoup, Augustin Couillot. On va marquer une pause et on va poursuivre cette analyse de la situation dans le Sahel, de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Et je poserai la question en tout cas à nos invités, notamment Dr Bakary Sambé, de savoir si on assiste enfin à ce qu'on pourrait qualifier de sursaut régional de la part des chefs d'État qui se sont réunis, ceux qui sont réunis notamment à Ouagadougou le 14 septembre dernier, et à un sommet de la CEDEAO élargi à la Mauritanie et au Tchad. Ne partez pas, on se retrouve juste après la pause.
Le débat Africa Radio, BBC Afrique, présenté par Francis Laloupo. Le débat.
Suite du débat BBC Afrique, Africa Radio, notre grand témoin invité dans cette édition, en studio décidément, à Dakar, dans le studio BBC Afrique, le docteur Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute. C'est le centre africain d'études de la paix basé à Dakar et à Niamey. Notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Abidjan, Augustin Couillot, rédacteur en chef du quotidien Notre Voix. Alors, docteur Bakary Samb, est-ce qu'on assiste avec ces nouvelles dispositions qui sont énoncées, ces nouvelles résolutions, hein? Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau sursaut régional contre ces nouvelles formes de conflits dans cette région? On peut se demander aussi pourquoi ce diagnostic qui semblait évident arrive aussi tard, parce que cela fait quand même des années que l'on en appelle, enfin, des experts en tout cas, des observateurs avertis comme vous notamment, en appelaient à la mutualisation des moyens des pays de cette sous-région. Pourquoi maintenant?
Vous savez, les chefs d'État de certains pays ont été jusqu'à présent dans le déni. Je le disais depuis les années 2013, après ce qui est arrivé au Mali. Vous savez, un pays comme le Burkina Faso, dès 2014, avait tous les moyens, avait le temps de mettre en place des stratégies nationales de prévention de l'extrême violent. Eh bien, c'est maintenant que c'est en train d'être fait. Des pays comme le Sénégal, oui, où il y a un déni politique du phénomène de la radicalisation, où les autorités considèrent les experts qui parlent de radicalisation comme étant des alarmistes. Aujourd'hui, ce pays n'a même pas de stratégie de prévention de l'extrémisme, se considérant hors de ce périmètre-là, alors que c'est une erreur stratégique majeure. Imaginez, les attaques de Ouagadougou, en fait, ont inauguré l'ère de la régionalisation de la menace. Et qu'aujourd'hui, il y a une absurdité même de la prévision qui fait que les États doivent de plus en plus se mettre dans la perspective de la prévention pour les États qui ne sont pas encore touchés. Moi, je me félicite aujourd'hui si des pays comme le Sénégal, d'autres pays participent à ces sommets et expriment leur volonté d'aller ensemble. Oui. C'est une nouvelle étape qui se dessine, mais j'ai encore peur qu'on fasse fausse route. C'est-à-dire qu'il y a une confusion dans nos pays entre la prévention de l'extrême violent et la lutte contre le terrorisme. Ils sont plutôt sur la lutte contre le terrorisme qui vise in fine l'élimination des cibles, mais aussi qui vise un résultat immédiat.
Vous voulez dire alors que la notion de prévention est totalement absente des résolutions issues du sommet de Ouagadougou?
Ce n'est pas absent, mais l'approche est encore une approche militaire. Et pas, j'ai vu avec beaucoup de joie le mot approche holistique. J'espère que ce sera pris en compte en couplant, c'est vrai, la nécessité de résoudre les urgences sécuritaires, mais aussi de faire de la prévention par l'éducation, la justice sociale, qui sont les sources de ces mécontentements, de ces frustrations qui aujourd'hui poussent des jeunes à s'engager dans ces groupes-là. Mais je crois qu'il faut que ces chefs d'État aussi prennent en compte les mutations de la menace. La menace n'est plus seulement uniforme avec des groupes qui vont faire des attentats revendiqués. Je donne un exemple, l'attentat du Istanbul au Burkina Faso n'a toujours pas été revendiqué. On nous pousse de plus en plus ces groupes vers des conflits intercommunautaires, vers une instrumentalisation des velléités qui existaient entre des populations transfrontalières, Nord-Tilaberi, quand vous allez dans le Soum, quand vous allez dans la province de Loudalan, dans d'autres régions, Guesskérou ou même Aïrou. Au Niger, on voit qu'aujourd'hui, il y a une instrumentalisation des conflits locaux entre éleveurs, agriculteurs, entre peut-être Peul, Dogon, etc. Et qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle trouvaille des groupes-là pour déstabiliser nos pays. C'est ce qui explique exactement pourquoi la menace a débordé du nord du Mali pour atteindre le centre aujourd'hui, qui, à mon avis, commence à être une zone complètement perdue malgré la présence de la MINUSMA et d'autres forces.
J'insiste un peu sur la question quand même, Bakary Samb. Est-ce que les chefs d'État de cette région sont en train de se réapproprier désormais ce dossier en affichant une nouvelle volonté régionale face à ce fléau?
Oui, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'un certain nombre d'entre eux étaient dans le déni total. Aujourd'hui, ils reconnaissent qu'il y a une véritable menace et il faut prendre cette menace à bras le corps. Oui. Aujourd'hui aussi, ils reconnaissent que malgré l'implication des partenaires internationaux qui peuvent avoir d'autres agendas ou d'autres objectifs, il faudrait une prise en charge africaine de ces questions-là. Maintenant, la question, c'est la question des moyens. Est-ce qu'on a les moyens de notre fierté, si j'ose dire, ou les moyens de notre notre souveraineté. Oui. On a vu au début de la crise malienne, la CEDEAO.
Il y a le fameux milliard de dollars qui a été annoncé comme ça, qui a été un peu, je dirais, l'annonce spectaculaire de ce sommet. Est-ce qu'il faut juste prendre cela pour un effet d'annonce, justement?
Moi, je m'attendais à une annonce plutôt conceptuelle qu'à une annonce chiffrée. Oui. C'est-à-dire que faire un grand sommet et dire qu'on a besoin de 1 milliard, bon, pourquoi ? Quels sont les moyens que ces chefs d'État vont utiliser ? Quels sont les ressorts dont ils disposent ? Quelles sont les expertises sur lesquelles ils vont s'appuyer ? Mais faire un sommet et dire que finalement on a besoin d'un milliard, à mon avis, je trouvais ça un peu cocasse. J'aurais préféré une annonce dans le sens de « voilà notre approche, voilà la stratégie qu'on va mettre en place ». C'est vrai qu'il y a le partage d'informations, oui, le partage du renseignement, etc. Ce qui va dans le bon sens. Oui. Mais au regard des velléités aujourd'hui qui existent, oui, et en même temps cette coexistence entre la CEDEAO et le G5 Sahel, oui, le G5 Sahel qui est là, qui prend une partie de la CEDEAO, un pays qui ne fait pas partie de la CEDEAO comme la Mauritanie, mais qui ajoute deux pays d'Afrique centrale, en tout cas un pays d'Afrique centrale comme le Tchad, qui fait partie de la CAC. Du coup, la CEDEAO se trouve un petit peu, je dirais pas morcelé, oui, mais en tout cas dépossédé de ce dossier-là, oui, et il va falloir un véritable leadership pour revenir, pour que la CEDEAO revienne au centre de ce jeu-là.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre, je dirais, cette annonce de comment dire, de ce front commun désormais qui est constitué dans cette région de la CEDEAO en y associant la Mauritanie et le Tchad, et cette déclaration que je vous laisse commenter, Bakary Samb, de Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'UEA, qui lors de ce sommet disait: nous appelons l'ONU à assumer pleinement et plus efficacement ses responsabilités et son leadership en tant que seul organe chargé de la sécurité mondiale. Voilà, donc que peut faire l'ONU de plus qu'elle ne fait déjà, notamment avec la MINUSMA?
Oui, il est vrai qu'il y a la présence de l'ONU. Mais je pense que cette phrase-là, moi, je la placerai dans un contexte. Le contexte est toujours le même que le président Issoufou lui-même avait dit, que les pays de l'OTAN, les pays occidentaux, doivent n'ont pas assuré le service après-vente de l'opération, oui, libyenne. Et qu'on a laissé...
Oui, mais on ne va pas regarder dans le rétroviseur en permanence. Aujourd'hui, il y a ce problème. Comment on y fait face, quoi, concrètement, avec quels moyens, avec quels outils, y compris les outils régionaux?
Mais c'est ce que je disais sur les moyens de la fierté et les moyens de la souveraineté. La CEDEAO s'est beaucoup bougé au début de la crise malienne, mais in fine, on a fait appel à la France. Aujourd'hui, le G5 Sahel a beaucoup de projets avec son secrétaire permanent à Nouakchott, etc. Oui. Mais il faut, pour les finances, s'adresser à Bruxelles et à Paris. C'est aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers une forme de mutualisation des moyens militaires, telle que l'expérience qui a été tentée dans le cadre de la Multinational Joint Task Force, qui est la force multinationale pour combattre Boko Haram, où on avait essayé quelque chose d'original. À défaut de pouvoir avoir des moyens financiers conséquents, pourquoi ne pas mutualiser les forces sur le terrain militaire ? Chef Tidiane Gadio, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères sénégalaise, oui, a dit une idée qui est très, très importante, en disant qu'il faudrait un G5+5. Oui. Pas en termes d'adhésion, mais le G5 peut être là, mais le Sénégal doit jouer son rôle stratégique, oui, le Cameroun doit être impliqué, l'Algérie, qui est quand même une pièce maîtresse de ce conflit du nord du Mali, oui, mais aussi le Maroc et d'autres. Je pense que si on tend vers cette mutualisation-là, oui, une solution peut être trouvée. Mais ma grande question, c'est que est-ce qu'on aura les moyens de cette fierté et de cette autonomie tant déclarée et de cette souveraineté-là? J'en doute si l'on sait la dépendance des grandes organisations africaines vis-à-vis de l'argent de l'Europe et des États-Unis.
La question reste posée en tout cas. Pour terminer sur ce sujet, Bakary Samb, une autre déclaration que je vous laisserai commenter, c'est celle de Jean-Claude Brou, président de la commission de la CEDEAO, qui au fond résume ce sommet de la CEDEAO ainsi. Il dit ceci, je cite, hein, « Renforcer les capacités des États concernés, appuyer leurs armées en matériel aérien et en hommes, accroître aussi la coopération policière, notamment le partage de renseignements, la mutualisation des moyens et insister sur le développement des zones sinistrées. » On a le sentiment peut-être, Bakary Samb, c'est une question que je vous pose évidemment, en lisant une telle phrase, qu'on enfonce un peu les portes ouvertes, non ?
C'est clair, et on voit en même temps l'approche purement sécuritaire et strictement sécuritaire dont je parlais. Je suis heureux d'entendre à la fin de la phrase les zones sinistres, etc. Sinistres. On oublie qu'il y a une bombe en Afrique aujourd'hui, qui est cette jeunesse désœuvrée, désorientée, sans horizon, qui est en quête de sens et de chance, qui aujourd'hui peut s'adonner à n'importe quelle forme d'adhésion à des groupes parce que l'espoir n'est plus là. Il y a une malgouvernance endémique, il y a le chômage des jeunes, il y a aujourd'hui...
Ma question, quand on lit ça, quand on entend ce genre de phrases, on se dit, mais ce sont des évidences, quoi. C'est-à-dire que pourquoi... ce ne sont pas des résolutions révolutionnaires, ce sont des évidences. Pourquoi n'applique-t-on pas cela depuis des années déjà?
C'est clair que la CEDEAO, quand même, on peut reconnaître la CEDEAO d'avoir été une organisation qui, au plan d'intégration régionale, marche à peu près bien par rapport à d'autres formes qu'on connaît en Afrique centrale et ailleurs. Ça, il faut le reconnaître à la CEDEAO, la manière de faire de l'alerte précoce, etc. Mais résumer un sommet avec de telles déclarations, je pense que vous pouvez avoir raison en parlant d'enfance et des portes ouvertes. Mais là où on doit attirer l'attention, c'est le changement nécessaire de paradigme. Le djihadisme des années 2010 n'est plus le même aujourd'hui. Il faudra nécessairement inclure l'intensification et l'instrumentalisation des zones de conflit traditionnelles, l'instrumentalisation des conflits intercommunautaires et intégrer ça dans le cadre d'une approche beaucoup plus holistique qui n'est pas seulement basée sur le tout militaire mais qui intègre des éléments de médiation, des éléments aussi de dialogue et de discussion parce que le sujet va être agité de plus en plus sur la question du dialogue avec ces communautés et avec ces groupes armés.
C'est ce que vous appelez l'ère post-djihadiste, hein, Bakary Samb. Merci beaucoup. On passe au deuxième sujet de cette édition.
Le débat Africa Radio, BBC Afrique.
Avec le docteur Bakary Samb, notre grand témoin invité, directeur de l'Institut de Timbuktu Institute, l'Institut de Tombouctou, c'est le centre africain d'études de la paix basé à Dakar et à Niamey. Et notre confrère invité depuis Abidjan au téléphone, Augustin Couillot, rédacteur en chef du quotidien Notre Voix. On va justement parler de la Côte d'Ivoire, en marge de l'actualité ivoirienne. C'est ce rebondissement, nouveau rebondissement dans le dossier Laurent Gbagbo Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Alors, question. Allait-elle le faire ou pas? Elle a donc fait, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. Elle a fait appel ce lundi de l'acquittement prononcé le 15 janvier dernier en faveur de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé. Et selon le bureau de la procureure, je cite, l'appel démontrera que la chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de procédure qui ont abouti à l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé pour tous les chefs d'accusation. Fin de citation. Une décision qui ouvre la voie donc à une nouvelle procédure devant la chambre d'appel qui devrait prendre plusieurs mois et prolonger d'autant le séjour des deux prévenus à l'étranger. Première question pour vous, naturellement, Augustin Couillot, vous êtes à Abidjan. Comment l'opinion ivoirienne a-t-elle réagi à ce nouveau rebondissement judiciaire d'abord?
Je vous dirais seulement que vous savez très bien que l'opinion ivoirienne est très partagée, très divisée sur la question. Il y a bien sûr les partisans du pouvoir en place, les partisans de M. Alassane Ouattara, président de la République, et les partisans de M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, qui sont dans l'opposition, et donc qui n'apprécient pas les choses de la même façon.
C'est ça.
La dernière fois, à l'issue du Conseil des ministres Thierry Lié Ayam Soukro, le porte-parole du gouvernement a carrément refusé de se prononcer là-dessus, parce qu'on sait très bien que c'est un sujet qui gêne énormément le gouvernement ivoirien et surtout qu'il a décidé de ne plus transférer d'Ivoiriens à la CPI. Mais de façon générale, les partisans de Laurent Gbagbo considèrent que c'est un acharnement contre leur leader et à partir de ce moment-là, et pour eux, tout ce qui se fait n'est pas du droit, c'est de la politique et il faut que Fatou Bensouda reconnaisse qu'elle a perdu la bataille, qu'elle a perdu la partie. Et que tout ce qu'elle fait maintenant, c'est juste pour prolonger l'échéance. Et que dans tous les cas de figure, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé s'en sortiront et ils reviendront en Côte d'Ivoire. Leurs partisans pensent d'ailleurs que c'est juste pour les empêcher, surtout Laurent Gbagbo, l'empêcher de venir participer à l'élection présidentielle de 2020 et que tout ce manège continue alors que la première instance avait clairement signifié à Fatou Bensouda que son travail avait été bâclé, qu'elle n'avait apporté aucune preuve, qu'elle ne pouvait pas prétendre à obtenir une condamnation à partir des dossiers qu'elle a montés et que donc à partir de ce moment, tout ce que Fatou fait, c'est juste pour prolonger l'échéance et juste retarder le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire.
C'est ce que disent en tout cas les partisans de Laurent Gbagbo, hein, parce que il y a d'autres sons de cloche, hein, chez les victimes de cette crise post-électorale de 2010-2011. Le collectif des victimes qui estime que cet appel de la procureure est une suite logique, je cite, hein, car les victimes risquaient de voir leurs droits violés. On se demande quand même qu'est-ce qui peut encore changer aujourd'hui dans ce dossier, parce qu'on est quand même passé par un acquittement.
Ce qui peut changer, c'est que la procédure s'allonge, parce que vous savez que la procureure a encore un mois pour déposer son mémoire d'appel.
C'est ça.
Les avocats auront deux mois pour déposer leur réplique
et ensuite,
les juges auront un temps indéterminé. Voilà, éventuellement. Donc ça peut durer des mois et des mois encore. Oui. Et voilà, mais au-delà de tout ça, il est clair que aujourd'hui, la Cour pénale internationale joue sa crédibilité, parce que le jugement rendu le 15 janvier a été comme un coup de semonce sur la tête des procureurs, parce que tout le monde donnait déjà Laurent Gbagbo condamné pratiquement à vie, et cette décision du 15 janvier a tout remis en cause. Oui. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe, il faudrait que, à mon sens, que la Cour pénale internationale trouve le moyen de s'en sortir, parce que personne n'imaginera encore que Laurent Gbagbo et Charles Goudé soient ramenés en prison à Scheveningen. C'est un désastre.
Merci. Docteur Bakary Sambak, quel regard vous portez sur cet épisode judiciaire, hein, dans l'affaire Laurent Gbagbo, Charles Blé-Goudé, quand on sait que les grandes manœuvres politiques ou politiciennes ont commencé en Côte d'Ivoire en vue de la présidentielle de 2020, quel impact cette situation pourrait avoir sur le climat politique dans ce pays ?
C'est vrai que certains ont lu ça, hein, comme étant une manière de vouloir apaiser le climat social à la veille d'une période électorale déjà assez tendue. Mais je crois que rien n'est encore joué. Je pense que des deux côtés, il y a des crispations. Mais au moment où nous en sommes, la Chambre peut soit maintenir la décision d'acquittement, et dans ce cas, l'appel serait irrecevable, ou bien elle peut aussi annuler la décision d'acquittement et rendre ainsi l'appel recevable. Je crois que aujourd'hui, ce qui se joue, c'est vrai que les nerfs sont tendus, parce qu'il y avait l'enjeu d'une possible ambition présidentielle qui a été contrariée aujourd'hui, et certains, comme les partisans du FPI, hein, ces partisans parlent d'acharnement. Mais ce que je vois dans tout cela, c'est que aujourd'hui, c'est toujours le débat sur la CPI, ces décisions parfois mal acceptées par les populations locales, mais aussi ces inconséquences parfois qui font que certains pays africains croient que la société civile croit que c'est un tribunal pour les Africains, etc. Mais au-delà de cela, je crois que oui, aujourd'hui, il y a un enjeu assez complexe. En même temps, une décision sur le plan international qui est lourde de conséquences, mais en même temps aussi dans un contexte où la Côte d'Ivoire se dirige vers une période électorale déjà tendue, avec les alliances qui s'est dessinées, avec notamment l'enjeu d'un retour de Gbagbo, et comment ça allait peut-être bouleverser ou changer la donne en Côte d'Ivoire, si l'on sait ce qui s'est passé lors des dernières élections où il y a eu une abstention record. Oui. Est-ce qu'il y avait un besoin pour que les cartes soient redistribuées en Côte d'Ivoire, ou bien des véritables élections s'y déroulent avec la participation de pour la réconciliation de ce pays qui a besoin de temps de paix.
Qui a besoin de temps de paix dans un pays où on parle beaucoup de réconciliation, d'ailleurs, Bakary Sambak, parce que ce qu'on peut craindre peut-être, c'est que cet épisode ravive les théories complotistes au sein d'une certaine opinion en Côte d'Ivoire. On entend le FPI dire notamment, parler d'une alliance objective pratiquement entre la procureure Bensouda et le régime de Alassane Ouattara. Est-ce que tout cela, je veux dire, est de nature à apaiser aussi le climat social ? Il n'y a pas que le climat politique, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai que c'est un pays qui a développé une forte résilience. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire est un pays quand même qui est assez résilient. On le voit après Grand Bassam, le pays n'a pas sombré, l'économie a continué à fonctionner. On le voit aussi après cette crise-là, le pays s'est relevé. C'est un pays assez important dans l'économie de la sous-région, et même dans la stabilité de cette sous-région-là, au niveau économique, au niveau social et politique. Maintenant, ce pays-là représente un grand enjeu. Bon, les esprits sont déjà sur surchauffée. L'élection approche à grands pas. Il y a tous les regards sont rivés vers ce pays-là. Je ne suis pas pour un camp ou pour un autre, mais aujourd'hui, c'est vrai que ces supputations-là ne participent pas à la sérénité d'un pays qui a besoin d'aller de l'avant, c'est de ça. Concrétiser l'expérience démocratique, mais aussi de retrouver sa véritable place en Afrique. Bon, la place, elle l'a retrouvée sur le plan économique, mais surtout de se consolider et aller vers plus de cohésion sociale.
En tout cas, cet épisode n'aide pas certainement à tourner la page de cette crise post-électorale dont les conséquences, en tout cas le souvenir, pèsent encore sur le pays.
Oui, maintenant la question c'est que est-ce que le rôle du tribunal c'est de dire le droit ou de participer à la cohésion sociale ou de participer à la réduction des tensions sociales. Maintenant il faut savoir c'est quoi le rôle d'un tribunal.
C'est une vraie question, effectivement. Augustin Couillon, dernière question sur ce sujet. Cette décision de la procureure de la CPI est intervenue au lendemain d'un meeting commun du PDCI et de Henri Konan-Bédié et du FPI, le FPI proche de Laurent Gbagbo. Le meeting s'est tenu le week-end dernier à Abidjan. Est-ce que cette décision peut modifier l'agenda commun désormais de ces deux parties PDCI-FPI?
Bien sûr, je pense que vous savez très bien que le FPI en lui-même est divisé en deux clans. Et il y a la partie légale dirigée par Pin Yessa qui n'était pas associée à ce meeting. Et il y a la partie que le cas Afid désigne comme dissidente qui est assez proche du président Laurent Gbagbo, donc qui était associée à ce meeting. Alors, modifier les agendas, c'est possible dans la mesure où beaucoup de gens avaient pensé que, vraiment sincèrement que Fatou ne ferait pas appel, la procureure ne ferait pas appel, donc ils attendaient déjà préparer, ils étaient en train déjà préparer le retour de Laurent Gbagbo. Donc pour certains, Laurent Gbagbo est le candidat naturel voilà, de leur camp, donc pas question de trouver un plan B jusqu'en 2020, jusqu'en octobre 2020. Donc évidemment, il y a les rôles, ça bouleverse quelque chose. Et puis, vous savez très bien qu'il y a encore les discussions, les supputations sur une éventuelle modification de la Constitution qui réintroduirait la limite d'âge au niveau de la présidentielle. Donc, tout ça là, pour l'instant, ça reste flou. Et la dernière fois, en août, le président Alassane Ouattara a laissé entendre qu'il pourrait retoucher la Constitution. Donc, beaucoup de choses ne sont pas encore précises et ça ne participe pas à ramener la sérénité en Côte d'Ivoire à la veille de cette élection.
Merci beaucoup. Troisième dernier sujet de cette édition.
Le débat Africa Radio, BBC Afrique.
On parlait de Félix Tshisekedi, le président congolais. Tshisekedi au royaume de Belgique pour son premier voyage en Europe. Le nouveau chef de l'État congolais a donc choisi la Belgique où il a effectué cette semaine une visite d'État. À son arrivée, il a fait part de l'émotion que suscitait en lui ce retour sur une terre où il a séjourné pendant plusieurs années, en indiquant d'ailleurs que la Belgique était, je cite, son deuxième Congo. Le président congolais a eu droit à tous les honneurs réservés aux grands invités du royaume, y compris une réception chez le roi des Belges. Et ce voyage fut aussi l'occasion de rencontrer la forte diaspora congolaise présente en Belgique. Mais la controverse était aussi au rendez-vous, puisque plusieurs Congolais présents en Belgique ont manifesté contre ce séjour présidentiel en contestant une fois encore l'élection de Tshisekedi et sa cohabitation assumée désormais avec le camp de son prédécesseur Joseph Kabila. Docteur Bakary Samb, quel peut être selon vous le sens de ce voyage, alors même qu'une partie de l'opinion congolaise continue de dénoncer les conditions de l'accession au pouvoir de Félix Tshisekedi?
Bon, je pense qu'actuellement, la page post-électorale, au niveau, en tout cas, des forces en place et de manière objective, quand même, est un petit peu, quand même, renfermée. Maintenant, le fait de choisir la Belgique, ben, c'est assez pertinent au regard des liens historiques, au regard aussi de ce storytelling, retour sur les terres d'asile, où il a séjourné pendant très longtemps, avec tout le souvenir, de la dépouille de son défunt père, etc. Et la Belgique qui représente le pays de, je dirais, c'est le pays de respiration du Congo, avec, quand vous allez là-bas, avec le Matongé, la présence des diasporas congolaises, etc. Maintenant, au-delà du folklore, c'est-à-dire que voilà un président nouvellement élu de manière démocratique, bon, il y a eu débat ou pas, de manière transparente, mais en tout cas démocratique.
Et élections contestées, en tout cas.
Contestées, en tout cas, il y a un débat. Maintenant qu'il retourne en Belgique, mais à un moment où, en fait, rien n'est réglé. Un régime est parti, un autre est installé, peut-être de manière démocratique cette fois-ci, mais le Congo continue à vivre les mêmes difficultés. La crise ARDC est loin d'être résolue aujourd'hui, avec un rôle flou des pays voisins qui n'est pas encore réglé. Le Congo reste toujours ce gros scandale minier, économique, un pays regorgeant de potentialités et de ressources naturelles, de ressources minières, mais qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Donc, un président, certes nouvellement élu de manière démocratique, même contesté, mais un pays qui sombre de plus en plus dans la violence, avec un rôle assez flou des acteurs environnants, mais aussi de la communauté internationale. Quelle est véritablement la... On n'a pas beaucoup entendu des positions claires de la Belgique, peut-être gênées par le passé que l'on sait, sur véritablement la situation au Congo, mais cela reste une visite, à mon avis, rien d'exceptionnel, banal, parce que logique, faire la première visite en Belgique comme un président ivoirien ferait la première visite en France, etc. Mais les problèmes africains sont toujours là, et aujourd'hui, toujours, c'est la même messe. On va en Occident, en Europe, pour chercher des solutions, alors que je pense que les solutions se trouveraient peut-être en Afrique, mais est-ce qu'on a le courage de les affronter, ces problèmes-là, et de les aborder de manière définitive? C'est ça la grande question.
Alors, justement, lors de ce séjour en Belgique, Tshisekedi a également rencontré le président sortant de la Commission de l'Union européenne, Jean-Claude Juncker. Est-ce qu'on peut dire que ce voyage consacre désormais la reconnaissance par l'Europe de la présidence Tshisekedi, qui est, je le rappelle, par ailleurs contestée par une partie de l'opinion congolaise, Bakary Sambé?
Évidemment, double reconnaissance. Reconnaissance par l'ancienne puissance coloniale, la Belgique, avec tout le poids que cela peut avoir sur les opinions publiques. Mais aussi, on l'a vu, parce que les associations de la diaspora qui ont manifesté ont compris tout l'enjeu. Parce que la reconnaissance par Bruxelles, c'est la reconnaissance de l'ancienne puissance coloniale, un pays influent là-bas. Mais aussi, Belgique, la Belgique, c'est la capitale de l'Union européenne. Et rencontrer Juncker, cela fait aussi une haute reconnaissance, c'est-à-dire l'onction maintenant de la communauté internationale, en tout cas une grande partie, une part très importante, qui est l'Union européenne. Et tout l'enjeu était là, le choix de la Belgique se justifiait donc sur les deux, sur les deux raisons-là. Le passé historique, les liens historiques qu'on connaît entre les deux pays, mais aussi la place stratégique de Bruxelles au niveau de la communauté internationale.
Est-ce que tout ce que vous dites, au fond, consacre ce fameux adage qui dit que les pays n'ont pas d'amis mais que des intérêts?
Ils ont des amis, des intérêts, mais parfois les pays privilégient les seconds.
Alors, dernière question sur ce sujet à vous, Augustin Couillot. Alors, plusieurs officiels belges ont déclaré, lors de ce séjour du président congolais en Belgique, que même si l'élection de Tshisekedi était contestable, il fallait prendre acte d'une transition pacifique et lui donner à la fois le temps de s'émanciper de l'ancien régime et aussi la chance de redresser son pays. Et qu'est-ce que vous pensez de cette manière des officiels belges, justement, à s'en remettre à ce qu'on peut appeler un principe de réalité?
Moi-même, je trouve personnellement que c'est même très maladroit de dire, même si son élection est contestable, je pense que c'est eux qui, parfois, créent les problèmes en Afrique par des déclarations un peu à l'emporte-pièce, comme ce que le ministre français avait fait au lendemain de l'élection de Tshisekedi. Je pense que, malheureusement, y compris Tshisekedi, personne n'a le courage d'emprunter un chemin de rupture. Disons, je ne dis pas de rompre les relations, mais au moins d'indiquer que l'Afrique est capable de se prendre en charge, que les nouveaux présidents élus sont capables d'envisager, d'explorer des nouvelles pistes, notamment les coopérations sud-sud, qui pourraient apporter, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, les solutions sont en Afrique, elles ne sont pas forcément en Occident, et malheureusement, quand ils sont élus, leur premier voyage, c'est aller, disons, ce qu'on pourra appeler, aller faire allégeance, disons. Mais bon, je vous comprends bien ce que tu dis, il en a besoin, il a été fortement contesté, il a besoin d'aller recevoir, aller chercher des soutiens à l'international pour un peu contrebalancer cette difficulté sur le terrain national.
Merci.
Et puis, voilà, on a vu qu'il a fait quand même 7 mois, 7 à 8 mois pour former un gouvernement. Je pense que cette difficulté ont commencé dès son élection et il espère avec les sociétés internationales remonter.
Merci beaucoup.
Pour s'engager dans une voie d'apaisement. Il dit qu'il est l'allié et non le vassal de Tshisekedi et
de
Kabila. On espère que les deux feront chemin pour le bonheur des Congolais.
Merci, Augustin Couillon. On va écouter à présent les messages de nos auditeurs sur Internet, sur notre page Facebook. Message recueilli et livré à présent par Didier Ladislas Landau.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions recueillies sur la page Facebook de l'émission. Réponse à la menace terroriste, Eli Essou estime qu'il faut un engagement fort et une union républicaine entre les États du Sahel pour éradiquer la menace terroriste. Pour Barma Vincent, même si l'on note un sursaut dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, cette guerre semble loin d'être remportée. Les chefs d'État concernés doivent donc doubler d'efforts pour mettre fin à cette menace. Silu Nabegué, lui, s'interroge sur le rôle des armées étrangères sur le territoire africain, car depuis l'arrivée de ces forces, il constate une multiplication des attaques terroristes. Côte d'Ivoire, Mephis Kiti affirme que l'urgence aujourd'hui en Côte d'Ivoire est de permettre à Laurent Gbagbo de se présenter aux élections prochaines ou de soutenir un de ses partisans à la présidence prochaine. Pour Sangaré Albert, tout comme Bédier, Ouattara doit chercher à rencontrer Laurent Gbagbo s'il veut une véritable réconciliation. RDC Bichara Amadou salue la visite du président Tshisekedi en Belgique. Pour lui, cette visite renforce les relations entre ces deux pays amis et attirera les investisseurs en RDC. Merci à Achakir Abdul Wakil Abdallah et Sombo Nekema qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/le débat BBC Afrique-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous, Ladislas Landau. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission. C'est une tradition, docteur Bakary Samb. Une conclusion générale en 30 secondes peut-être sur cette lutte contre le fléau terroriste.
Certes, il y a des urgences sécuritaires à gérer, mais il faut jouer sur la prévention et l'intervention. La prévention pour véritablement que certains pays ne soient pas atteints, cette intervention aussi, mais l'intervention qui ne se limite pas seulement à des moyens sécuritaires. Je crois qu'il faudrait aussi, entre les Africains et leurs partenaires, arriver à en finir avec ce conflit de perception du conflit sahélien.
Ce conflit de perception, dites-vous, hein ?
Oui, il y a véritablement une forme de conflit de perception du conflit sahélien, si j'ose dire, parce que en même temps, il y a un véritable hiatus entre les approches internationales de ce conflit-là et les perceptions des populations locales.
Merci beaucoup, docteur Bakary Samb. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été avec nous pour ce débat de BBC Afrique, Africa Radio. Vous êtes le directeur du Timbuktu Institute, le centre africain d'études de la paix basé à Dakar et à Niamey. Merci également à notre confrère invité depuis Abidjan, Augustin Couillot, rédacteur en chef du quotidien Notre Voix. Merci à Hugo Vallière qui a réalisé cette émission ici à Paris. La régie technique était assurée à Dakar par Abdou Diop, chargé de production, comme chaque semaine, Didier Ladislas Landau. Merci à lui également. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Et d'ici là, prenez grand soin de vous, portez-vous bien et bon week-end en tout cas. Au revoir.